Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Suite de cette série des clés pour vivre, et c'est une troisième rencontre et une grande joie aussi de vous recevoir ici dans cette émission, dans nos studios, sur nos radios chrétiennes. Bonjour Monseigneur David Macaire.
Bonjour Nathalie, alors, je suis content d'être de ce côté du micro parce que vous n'avez pas rappelé que pendant longtemps j'étais de l'autre côté du micro.
On peut le dire, ça c'est une petite histoire aussi.
Oui, ça fait 20 ans déjà.
Ça fait 20 ans, c'était les débuts, vous n'étiez pas encore donné prêtre.
Pas du tout.
Vous étiez religieux dominicain.
C'était au tout début de Radio Présence, on avait lancé le Café Théologique.
Ouais, vous avez un bon souvenir de cette émission.
Excellent, moi-même ça m'a beaucoup nourri comme étudiant en théologie et puis nourri ma culture chrétienne. Étienne, j'espère que c'est le cas de nos auditeurs.
En tout cas,
et de vous
aussi. Vous avez fait du chemin depuis.
Dans quel sens?
Ah oui, ça c'est... vous avez fait du chemin, mais vous avez, comme le jour de la visitation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, elle était libre de dire oui. Vous avez été aussi un homme libre de donner vos réponses. Hein. Vous avez dit oui.
J'ai dit oui.
Alors dans ce oui, qu'est-ce qui est le plus difficile à tenir? Permettez-moi, la question n'était pas prévue, mais elle vient spontanément.
Justement, pour c'était beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand j'ai dit oui au Seigneur pour son appel à devenir religieux, missionnaire, dominicain, à quitter mon pays. Je suis martiniquais, donc j'ai quitté mon pays,
pour y revenir,
quitté mes parents, j'ai quitté... À ce moment-là, donc en 94, vous voyez, ça fait longtemps. Je pensais vraiment être dépouillé de tout, d'amitié, de tout, et le Seigneur m'a donné au centuple. Et puis, vous savez, quand vous entrez dans un ordre qui a 800 ans, à Toulouse même d'ailleurs, il y a une tradition, vous entrez dans un chemin, il y a une histoire, il y a un passé, il y a un futur. Voilà, donc ces belles années au couvent, j'ai pas tellement souffert du sacrifice. Par contre, je dois l'avouer honnêtement, quand l'Église m'a demandé de quitter du coup mon ordre et puis le sud de la France pour revenir en Martinique, donc je revenais chez moi, chez mes parents, je retrouvais les prêtres martiniquais sont pour la plupart des amis de longue date, on a été au petit séminaire ensemble, des choses comme ça. Mais en même temps, le sacrifice a été beaucoup plus dur. Peut-être que j'avais vieilli entre-temps, mais c'est parce que le ministère pastoral, faut pas trop le dire, mais il est vraiment dur. Et vraiment, intérieurement, on se pose beaucoup de questions. Alors heureusement, il y a le Seigneur, il y a la vie spirituelle, il faut avoir beaucoup de résilience. Il y a aussi il y a des fumées de Satan, faut l'avouer. C'est-à-dire qu'il y a de la violence contre les serviteurs de Dieu, contre les prêtres. Et comme évêque, c'est pas pour rien que l'évêque a une crosse, parce qu'il doit souvent défendre ses prêtres, pas se défendre, parce qu'on ne peut pas se défendre, mais il y a aussi des prêtres eux-mêmes qui peuvent être comme des fils, parfois avec une certaine, s'ils vont mal, etc., par rapport à l'évêque, qui est normal, c'est le responsable, alors il a à la fois maman, papa, enfin un peu tout. Donc c'est une vraie humanité, le clergé, qu'on connaît mal de l'extérieur, qu'on connaît mal, qui est pas simple. Puis en même temps, il y a des moments mais absolument splendides. Je ne dis pas ni pour faire plaisir ni du tout.
Il y a les joies et puis les peines et puis les douleurs.
Mais tout est un petit peu plus violent. Vous voyez, tout est pas quand je dis violent dans le bon sens, un peu plus fort. Les joies sont des joies, mais pour la vie. Et parfois les déceptions. Vous savez quand des évêques, des prêtres apprennent que l'un des leurs a fauté gravement, etc. Mais on s'effondre parce qu'on se sent directement concerné. Je sais pas si j'étais médecin ou journaliste et que j'apprends qu'un de mes confrères a commis des crimes ou des erreurs dans le cadre de son métier ou a fait des victimes. Bon, bien, on se sent attristé pour les victimes, pour cette personne, mais on continue. Mais là, pour un prêtre, non, on le prend en pleine figure. Même si le prêtre, il est au fin fond d'un autre pays, ça affecte directement.
Donc c'est le corps de l'Église.
Parce que notre trésor, c'est d'être des signes. multiples. Parce que vous, oui, oui. On a fini oui. hier, je crois, en disant que le prêtre était un autre Christ. Et vous avez rajouté, je me rappelle, quand il monte à l'autel, c'est vrai, quand il monte à l'autel, ou quand il rentre dans le confessionnal, quand il met son étole, et qu'il dit « je te pardonne » ou « je ceci aime encore », oui. Mais dans sa vie de tous les jours aussi, il représente le Christ. Et dans sa vie quotidienne, en tout cas pour les fidèles. Et il peut pas, on n'est pas prêt de 8h à 17h comme on serait postier ou boulanger, je veux dire. On l'est tout le temps. On l'est quand on est en vacances, ou etc. Et donc on est tout le temps signe, on a tout le temps cette pression, comme on est tout le temps père de famille quand on est père de famille. Et donc lorsque quelque chose est atteint, que notre peuple, le signe que nous sommes est atteint, surtout que c'est, on ne l'est pas au nom du sang, comme dit Saint Jean dans le prologue, vous n'êtes pas né de chair et de sang, vous êtes né d'esprit. Donc nous ne sommes pas pères par le sang. Et si un père a fauté envers ses enfants, c'est pas bien, mais il reste le lien du sang, il sera leur père quoi qu'il arrive. Mais si les fidèles, et même en France en particulier, le peuple, je dis même pas le peuple de Dieu, je parle de tout le monde, que ce soit des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmans, d'autres religions, nous reconnaissent comme le prêtre, comme le père. Mais lorsque l'image du père est blessée par des frères qui ont fauté, certes, qui sont peu nombreux, mais ça nous atteint directement. Et ça, c'est une chape, c'est une blessure, c'est aussi, alors bien sûr, il faut penser d'abord aux victimes directes de ces criminels. Donc ce prêtre, il est un signe. Et il doit donc redoubler d'humilité à ce moment-là, il y a une injustice hein, quand même aussi, mais enfin, il doit passer au-dessus, avoir de la résilience maintenant, se confier au bon Dieu, penser aussi que... Et avancer quand même. Et moi, je suis admiratif de ces prêtres qui avancent, de ces jeunes qui donnent leur vie. Enfin, il faut se rendre compte, ils ne font pas ça pour l'argent, on ne gagne rien. Ils ne font pas ça pour quoi ? Pour la notoriété ? Il n'y en a plus. Ils font quoi ? C'est pour le bon Dieu. Malgré leur faiblesse. Et donc, l'une de mes joies et de mes admirations, mais quasiment mystiques, c'est de dire, mais ce gars-là, avec toutes ses faiblesses, quand on connaît bien un tel et un tel, il est quand même prêtre et il fait du bien. Il se lève tous les matins pour célébrer les sacrements, pour accompagner les fidèles, accompagner les familles. Et vous connaissez le problème, celui-là. Ils ne sont pas mieux que les autres hommes, je vous le disais hier, avec leurs problèmes, celui-là hypochondriaque, celui-là ne va pas bien, celui-là a un problème de famille, celui-là est missionnaire, il vient de l'autre bout de la planète, il a sa maman qui est malade, mais il est là quand même pour annoncer l'évangile, malgré les coups. Enfin, c'est incroyable quand on regarde de près.
Quelle est votre joie aujourd'hui dans votre... Oui, on parle de mission, hein. C'est un beau ministère, c'est une responsabilité dans votre joie d'avoir cette responsabilité d'un archevêché. Vos plus grandes joies.
Vous demandez à l'archevêque,
oui. Oui.
certainement de voir s'épanouir des groupes ou des personnes sans l'évêque, j'ai envie de dire.
Ah oui, donc ils grandissent, voilà, ils deviennent adultes. Donc il y a une maturité
Des groupes,
dans leur chemin de foi.
Et puis bien sûr, ceux qui trituent, alors pour le coup on parle des évêques, mais ce qui est dans leur tripe, pardonnez-moi l'expression, mais c'est oui. la communion. Ce qui nous divise, oui, parce que je crois que c'est vrai, valable aussi dans une paroisse. Imaginons une paroisse qui marche très bien avec un curé qui a du leadership, tout le monde le suit et tout est organisé. Mais si entre eux, les frères et sœurs qui exercent des services dans la paroisse ne s'aiment pas. Alors tout le monde réfère au curé comme dans une pyramide, hein. Ça marche bien, ça marche au pas. Mais par contre, entre eux, il n'y a pas de communion. Mais en fait, on n'est pas heureux. Vous êtes mère de famille, père de famille, vos enfants vous aiment, mais entre eux, ils ne s'aiment pas. Entre eux, ils ne se parlent pas, ou ils font pas église, ce qu'on comprend.
Oui,
voilà.
Oui.
Donc la joie d'un évêque, c'est lorsque une paroisse avec une autre paroisse travaille. Là, j'ai une paroisse dernièrement, ils ont fêté leur centenaire en même temps, et
c'est
ils
beau,
ont décidé de faire un match de foot entre leurs jeunes.
Oui.
Donc les jeunes de la paroisse ont fait un match de foot contre les jeunes de l'autre paroisse. Évidemment, fatalement, il y en a une qui a gagné. Alors j'ai célébré la messe quelques temps après, et j'ai remercié celle qui a perdu, on va dire la paroisse de Tartampion, dit je remercie la paroisse de Tartampion d'avoir laissé gagner la paroisse de Trifouilly-les-Canards. Tout le monde a applaudi, etc. Mais c'est une bonne ambiance, puisque tout le monde est venu à la messe ensemble, les deux paroisses, étaient habillés différemment avec des couleurs. Ça, c'est des moments de communion. Puis le peuple de Dieu est heureux.
Voilà, et le peuple de Dieu, ah oui, vous nous décrivez, est uni.
Parce qu'il,
voilà.
Mais il est heureux voilà. Parce qu'il est uni, et oui, il est uni et oui. Parce qu'il est heureux. Voyez, il recherche enregistrer cette communion. C'est, encore c'est... une fois, on revient à la synodalité. Hein, c'est vraiment très profond ce que le pape a reçu et le synode. Malheureusement, il y a eu un peu de tarte à la crème, l'impression que c'est une sorte de parlement dans lequel les gens vont décider à main levée la vie de l'Église. Non, un pasteur reste un pasteur comme dans une famille. Vous voyez votre joie. Vous avez une famille, vous avez des enfants, il y a des bébés, il y a des petits-enfants. Et puis un jour, vos enfants deviennent tous grands et un peu adultes ou grands adolescents. Et là, on sent que dans la famille, tout tourne parce que tout le monde a reçu. Et on avance ensemble dans la famille, voilà. Même celui qui vient de se marier, etc., revient pour Noël. Et là, on sent que tout le monde a reçu. Il n'y a plus à redire, faites ceci, faites cela et tout. Il n'y a pas que maman et papa qui tirent, qui nettoient. Tout le monde est à sa place. Là, c'est ça. En fait, c'est cette église-là dont rêve aujourd'hui le synode. C'est une église où des fidèles, vraiment, mais tous ensemble, sans que papa et maman interviennent, mais papa et maman restent papa et maman.
Oui, tout à fait.
Le pasteur restera le pasteur. Il ne s'agit pas de faire de l'église un collectif autogéré, ce n'est pas un soviet. Et les prêtres, justement, à ce moment-là, vont trouver une place nouvelle qu'ils doivent trouver. Parce que vous savez ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est pas que les prêtres qui le fabriquent, loin de là. Ouais. Je connais beaucoup de prêtres, au contraire, qui voudraient avancer ensemble, mais il y a des fidèles qui n'en sont pas encore capables. Donc il y aurait une éducation. Parce qu'ils ont peur de la responsabilité des autres fidèles, ils ont peur, etc. Donc s'il n'y a pas le prêtre qui fait tout, on est insécurisé. Et il faut rentrer dans une église où, justement, le prêtre, c'est le pasteur, c'est son rôle d'être pasteur, il ne peut pas l'échanger avec quelqu'un d'autre. Comme un père ou une mère de famille, il ne peut pas déléguer ce qu'il est. Mais par contre, il peut faire grandir les fidèles et leur ouvrir la porte, même le plus petit d'une famille, pour que chacun ait sa place, chacun ait son rôle, et chacun soit reconnu dans son rôle, et chacun soit unique, reconnu personnellement, du plus petit au plus grand, du malade qui est dans son lit, jusqu'au fidèle qui est, comme dit le pape, dans les périphéries, qui dit « mais j'ai aussi ma place quand je viens à l'église, je ne suis pas une sorte d'étranger, un spectateur du charisme des autres ».
Alors, on va méditer. Vous nous avez beaucoup informé, Monseigneur David Macaire. Je vais vous proposer, car le temps cet entretien, on est au milieu de la semaine, ça passe trop vite. Et il nous reste encore demain et puis après-demain.
Merci,
alors, qui sont ces prêtres? Pourquoi ont-ils été choisis par Dieu? Oui, ça. Pourquoi ont-ils été choisis et pourquoi répondent-ils aujourd'hui, dans ce troisième millénaire où le monde change, la société évolue, les nouvelles lois aussi arrivent parfois, lieu de combat avec des lois sociétales qui vont à l'encontre, bien souvent, de l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, si vous le souhaitez, je vais vous proposer de vous retrouver, ne bougez pas, à demain, à la même heure. Et merci.